Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu embêté parce que du coup, on ne s'est pas concerté avec Sylvain et puis avec les autres interventions pendant la prière. Mais du coup, il y a une bonne partie de ma prédication de ce matin qui est déjà spoilée, vous allez voir. Donc c'est plutôt bien, ça veut dire peut-être qu'il y a une unité quand même dans ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Et puis merci en tout cas Sylvain pour la présidence aussi. Moi, j'ai été touché dans mon parcours aussi par ce poème du coup, que tu citais. Plus tard aussi, j'ai vu, peut-être vous avez déjà vu aussi cette petite bande dessinée qui reprend ce poème avec un petit twist à la fin. Donc c'est pareil, c'est Jésus du coup qui est à côté de la personne qui dit « Regarde là, tu vois là, en fait, quand il n'y a qu'une trace de pas, c'est là où je t'ai porté sur mes épaules, etc. » Et puis la dernière case, c'est « Tu vois cette longue traînée là-bas ? Ben, c'est quand tu faisais un caprice et que tu voulais bouder, je t'ai traîné par les pieds comme ça pendant un temps. » Et ça me parle aussi parce que c'est beaucoup plus proche de la réalité de ma vie spirituelle au quotidien aussi, cette image-là. On vient de fêter Noël. Et c'est une période, je trouve, qui est pleine de paradoxes et d'antagonismes. C'est une période où à la fois il y a cet espoir et cette attente. On se rappelle chaque année que Jésus est né parmi les êtres humains. Et puis en parallèle, il y a toute cette ferveur et cette frénésie pour aller chercher des cadeaux, acheter une dinde, du foie gras, préparer des fêtes, des repas. Et finalement, il y a beaucoup d'excitation et beaucoup de consumérisme aussi. Et puis c'est souvent la période de l'année aussi où... Eh bien, finalement, les choses difficiles ressortent le plus. La solitude, en fait, se voit davantage. Il y a une injonction à être heureux, finalement, pendant ce mois, mais qui peut être très difficile à vivre quand on nous l'applique de l'extérieur, alors qu'elle n'est pas cohérente avec notre vécu intérieur. Donc, c'est une période qui est toujours un petit peu difficile. Mais ça y est, on a fini Noël pour cette année, c'est derrière nous. Et du coup, on est dans... juste après Noël, et c'est pour ça que j'ai intitulé du coup mon message aujourd'hui « Le jour d'après ». Parce qu'on parle beaucoup de la période de l'avant, mais on ne parle pas beaucoup de la période de l'après. Un jeu de mots très très savant, j'espère que vous avez compris un peu. Et pourtant, quand on y réfléchit, le lendemain de la naissance de Jésus, il y a 2000 ans, les gens se sont levés comme tous les jours, ils ont été au champ, peut-être qu'ils ont été s'occuper de leurs enfants, peut-être qu'il y en a qui se sont mariés le lendemain de la naissance de Jésus, peut-être qu'il y en a qui sont décédés, certainement, il y en a beaucoup qui sont décédés le lendemain de la naissance de Jésus, puis il y en a qui sont nés, d'autres bébés, d'autres humains, et la vie, en fait, elle a continué comme si rien ne s'était passé. Alors que pour nous, en tant que chrétiens, en fait, le jour de la naissance de Jésus, c'est la grande disruption dans l'histoire de l'humanité. On disait en fait au culte de Noël mercredi, il n'y a pas d'autre nuit qui est semblable à cette nuit. La nuit où Jésus est né, il n'y a rien qui ressemble à ce moment-là. Et pourtant, en fait, l'histoire des êtres humains a continué, et ça fait 2000 ans que c'est le cas. Et nous aussi, on est un peu dans le jour d'après. Alors pas juste pour Noël, mais tous, si vous êtes là ce matin peut-être, sinon vous avez la possibilité de donner votre cœur à Jésus à la fin du culte. Mais si vous êtes là, c'est qu'à un moment, il y a eu quelque chose qui s'est passé avec Dieu. Vous avez découvert Jésus d'une manière spéciale. Il y a eu une rencontre. Alors pour certains, ça prend peut-être du temps. Et puis pour certains, il y a vraiment une expérience, un moment précis où vous avez pris conscience de qui était Dieu, de qui était Jésus. Et vous avez pris une décision et ça a eu un impact sur votre vie. Il y a eu un changement. Il y a eu un avant et un après. Et puis la vie a continué et tout semblait comme avant. Mais plus rien n'était pareil. Alors j'avais envie de parler ce matin de comment on fait pour vivre le jour d'après. Après ce moment important, après cette attente, cette espérance, quand on est juste après, comment est-ce qu'on fait pour vivre dans un monde où finalement, on ne voit pas que Jésus soit Seigneur et Roi quand on regarde autour de nous. Quand on regarde dans la rue, quand on regarde à la télévision, quand on discute avec nos collègues de bureau. Dans certaines interviews, en fait, le journaliste il va demander « Est-ce que vous croyez en Dieu ?» Et puis la personne va dire « Oui, non, etc. » Et puis des fois, en fait, dans le côté un petit peu très laïcard, français, etc., en fait, j'ai entendu des journalistes qui continuaient avec la question si la personne disait « Oui, je crois en Dieu. » « Ah oui, vous aimez avoir des amis imaginaires. » c'est un peu méchant, mais c'est la conception aussi qu'ont les gens de notre foi souvent, c'est dire bah, c'est gentil, tu écoutes, ça te fait du bien, très bien, tu as envie d'imaginer qu'il y a quelqu'un comme ça à qui tu peux t'adresser, c'est super pour toi. Le premier verset que je voulais citer, alors j'ai fait un très beau PowerPoint, vous pouvez être sûr que je l'ai fait moi parce qu'il est très développé, vous voyez, il y a beaucoup d'illustrations. C'est essentiellement les versets que je vais citer, parce que j'aime bien citer des versets, et puis je voulais que vous soyez sûr que c'est quand même dans la Bible, donc il y a la référence en bas si vous voulez les noter. Et puis c'est toujours bien du coup de le lire en même temps que de l'entendre, voilà. Et je lisais ce verset cette semaine, du coup j'étais dans l'évangile de Jean, pardon. Et ce verset, il m'a fait tilt. « Sous peu, le monde ne me verra plus, c'est Jésus qui parle, mais vous, vous me verrez parce que je suis vivant et que vous aussi, vous vivrez. » Et je trouve que c'est bien la dichotomie dans laquelle on est aujourd'hui. C'est-à-dire que pour nous, Christ est réel. C'est-à-dire que ce n'est pas une imagination, ce n'est pas quelque chose qu'on a créé dans notre tête. C'est une réalité, en fait, dans notre quotidien. On vit avec Jésus, on parle avec Jésus, on communie avec Jésus. Mais pour tous ceux qui nous entourent, ils ne le voient pas. Et en fait, c'est ça qui rend très difficile en fait, notre vie dans ce monde aussi, c'est ce grand écart en fait, entre quelque chose qui est la plus grande réalité de notre vie, et finalement, personne ne voit ça autour de nous, dans la société, dans la vie réelle. En fait, on est dans cette période de l'entre-deux. Dans l'évangile de Matthieu, en fait, je ne vais pas vous citer, parce qu'il y a plusieurs paraboles qui en parlent, mais Jésus va citer en fait cette parabole, cette histoire pour présenter le royaume de Dieu. Il va dire que c'est comme une toute petite graine qui a été semée dans un champ. Et pendant longtemps, on ne voit rien. La graine, elle est là, le royaume de Dieu est arrivé, Jésus est né dans le monde, mais pendant très longtemps, on ne voit pas. C'est un peu comme aujourd'hui, hein, c'est le jour peut-être le plus froid de l'année, je ne sais pas. Mais ce matin, quand on est sorti de chez nous, on se caillait vraiment bien. Là, en fait, la graine, elle est en dessous la terre et puis tout semble mort, il n'y a rien qui est visible. Et des fois, ça peut être une frustration aussi pour nous parce qu'on sait qu'il y a quelque chose à l'intérieur, mais on ne voit pas forcément en fait, les fruits de ce que Jésus devrait être en train de faire à l'intérieur. On a toujours des problèmes de colère, on a toujours en fait, quelque chose qui nous pousse à être égocentrique et à placer nos besoins avant ceux des autres. Il y a toujours en fait, ce combat, cette tentation à l'intérieur. Alors finalement, est-ce que le royaume de Dieu est là ou pas? Qu'est-ce qui se passe? En théologie, on dit qu'on est dans le royaume de Dieu qui est déjà là, mais qui reste encore à venir. Il y a une tension en fait à l'intérieur de nous. Parce que oui, Jésus est venu, il est mort à la croix, il est ressuscité, il est remonté auprès du Père. Et en même temps, en fait, le royaume de Dieu reste quelque chose qui vient et qui n'est pas encore là. Vivre dans cette tension, c'est ce qu'on va faire tout au long de notre vie chrétienne. On est dans l'entre-deux. On a reçu les prémices de l'esprit, mais Paul va dire ces prémices, ils nous font gémir en fait, parce qu'on soupire après le moment où on va réellement revêtir notre identité de fils et de fille adoptif de Dieu. Paul, il va dire, hein, on est fiers en tant que protestants parce qu'on est sauvés, on est sûr de notre salut, etc. Et c'est vrai, mais Paul, il va dire, c'est en espérance que vous êtes sauvés. Parce que vous l'espérez encore, ce n'est pas encore là. Si c'était déjà là, vous le verriez, vous n'aurez plus besoin d'espérance, ce serait déjà fait. Vous auriez revêtu votre nouvelle nature incorruptible et puis vous seriez en fait pour l'éternité avec Dieu. Mais ça reste en fait quelque chose où il y a un processus, il y a un chemin, il y a un voyage, il y a un combat. Il y a toute une vie qui est devant nous et qu'on doit vivre dans cette tension, dans ce paradoxe et dans cet entre-deux. Alors ce matin, rassurez-vous, ça commence un peu triste, mais du coup, je vais essayer de redonner un petit peu d'enthousiasme à cette prédication. Je vais m'appuyer sur l'apôtre Paul, qui n'était pas un bout en train. Hein, quand vous lisez ses lettres, ça ne déborde pas de joie de vivre et puis d'enthousiasme, etc. Il y a beaucoup de remontrances. Et puis, on se dit que ce n'était pas tellement le mec qui faisait des blagues un petit peu. L'apôtre Paul, on ne le cite pas souvent, on dit souvent les belles choses qu'il a faites, mais c'est quand même la personne qui a prêché tellement longtemps qu'il y a un mec qui s'est endormi et qui est tombé de l'étage et voilà, il a dû le ressusciter après pour pouvoir continuer à prêcher. Donc voilà, pour dire que peut-être que les prédications de Paul, ce n'était pas le truc le plus drôle qui soit ou le plus captivant. Mais on va s'intéresser à un verset qui va être notre verset thème pour ce matin. C'est le verset qui est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. Bon, vous voyez, j'ai des petits problèmes d'élocution, c'est normal. En fait, je suis sorti de ma période d'hibernation pour venir prêcher ce matin. Élise pourra en témoigner, mon épouse. La période de fin décembre, c'est une période où physiologiquement, en fait, je rentre en hibernation. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais je dors très longtemps, beaucoup. Comme c'est les vacances, je dors dans la journée aussi. Et quand je suis réveillé, je ne suis pas forcément réveillé, en fait. Voilà. Donc, je vous préviens pour ce matin, s'il y a des petites phrases qui ne sortent pas exactement comme je les voudrais, ben, je compte sur votre indulgence. Notre verset thème ce matin, ça va être la consigne, le conseil de l'apôtre Paul pour vivre le jour d'après. Comment on fait pour vivre cette vie qui est devant nous en restant dans une attitude qui va nous permettre de tenir jusqu'au moment où le royaume de Dieu sera vraiment là. Et ce conseil de Paul, il est très simple, il est en trois parties, comme du coup, en fait, pareil, j'imagine que vous aussi, vous n'êtes pas très bien réveillés, ce sera les trois parties de notre message, comme ça, ce sera assez simple. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Il y a quelques semaines, j'avais utilisé ce verset comme bénédiction finale à un culte. Et puis, j'avais fait cette petite blague, mais qui est assez vraie. Si vous vous demandez quelle est la volonté de Dieu, Paul a répondu dans ce verset, en fait. La volonté de Dieu pour vous, c'est soyez toujours dans la joie, priez sans cesse et remerciez Dieu en toutes circonstances. C'est une petite blague, mais c'est une petite blague qui me touche parce que j'ai grandi dans des milieux chrétiens. Où on se posait beaucoup de questions sur qu'est-ce que Dieu veut. Et quand j'étais adolescent et jeune adulte, en fait, dans les camps de jeunes que je faisais, dans les réunions d'église, etc., on parlait beaucoup en fait, aux jeunes de mon âge en disant « Mais tu as une destinée, tu dois avoir un impact dans la société, dans le monde, et Dieu a un plan pour ta vie, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. » Et en fait, j'ai intégré ça avec beaucoup de pression sur moi. Et une de mes questions qui me faisait terriblement peur, c'est « Seigneur, quelle est ta volonté pour moi ? Parce que je ne veux pas passer à côté en fait, de cette volonté parfaite qui est là. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur ? Dis-moi, quel métier ? Qui dois-je épouser ? Avec qui me marierai-je ? Est-ce que je dois partir en mission en Thaïlande ? Seigneur, dis-moi !» Et souvent, quand on pose cette question à Dieu, il ne nous répond pas comme on attendait. Il va plutôt nous répondre comme l'apôtre Paul. « Sois toujours dans la joie. » Prie sans cesse, remercie Dieu en toutes circonstances. Un jour, j'ai posé cette question à Dieu dans un contexte particulier où j'avais vraiment besoin de prendre une décision très importante. Et je ne savais pas quoi faire. J'ai dit, Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire ? Quelle est ta volonté ? Etc. La réponse de Dieu, elle a mis par terre toute ma théologie. Et j'ai senti dans la prière à un moment le Seigneur me dire, Sam, tu as un cerveau. Tu as tous les éléments pour prendre la décision. Tu choisis à droite, je viens avec toi à droite. Tu choisis à gauche, je viens avec toi à gauche. Prends une décision. Et ben, du coup, ça ne rentrait pas dans ma théologie. J'étais obligé de tout reconstruire, de dire, ah bon, en fait, je dois décider, en fait. Je dois prendre des décisions. Je dois faire des choix. La volonté de Dieu, ce n'est pas... dans la religion musulmane, vous savez, on parle du mektoub, c'est le destin, tout est écrit, chaque pas, chaque trait, tout ce que vous allez faire, finalement, il n'y a pas vraiment de choses à faire, parce que tout est écrit par Dieu, et donc rien n'est à faire. Quoi. Dans la vie chrétienne, rien n'est écrit vraiment, parce que Dieu prend en compte en fait, vos décisions, vos choix, et ce que vous allez choisir de faire cette année. Et donc, quand Dieu nous communique sa volonté, c'est plutôt en fait, dans ce verset un petit peu, dans des directions qui sont parallèles. Mais finalement, nous avons notre vie à vivre, nous avons notre rôle à jouer. Et notre histoire, en fait, elle n'est pas écrite à l'avance. Dieu compose avec ce que nous faisons. Et ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour aujourd'hui. Donc la volonté de Dieu, soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. On va commencer avec la partie 1. Soyez toujours dans la joie, si vous avez bien suivi. Et je voudrais commencer par dire que ce que Paul nous dit là, c'est soyez positiviste. Voyez toujours le bon côté des choses. Essayez d'avoir des sentiments positifs comme ça. Vous savez, il y a un peu ce côté « je vais bien, tout va bien, je suis gay, tout me plaît ». Ce n'est pas du tout le conseil de Paul. Déjà, ce n'était pas dans son, voilà, dans son profil un petit peu. Hein. C'est, comme je disais tout à l'heure, ce n'était pas tout à fait le joyeux drille de la bande. Mais en fait, quand Paul nous parle de la joie, il nous parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Il ne nous parle pas d'une émotion, mais il nous parle plutôt en fait, du fruit que l'esprit va porter à l'intérieur de nous. La joie, elle va provenir de l'espérance. Et l'espérance que nous avons, alors j'ai trouvé trois points que je voulais développer avec vous, qui sont toujours présents dans nos vies et sur lesquels on peut toujours s'appuyer pour laisser Dieu, en fait, porter cette joie à l'intérieur de nous. Et le premier, c'est la slide suivante. Et c'est là où je disais que j'ai été spoilé honteusement par Sylvain et les autres avant. Même dans la prière, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a cité ce verset, donc je vais le citer encore une fois après les autres, dans l'évangile de Matthieu. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La première raison pour laquelle notre espérance ne faillit pas, ne déraille pas, c'est que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Peut-être que le monde ne le voit pas, mais nous avons cette assurance que Jésus est là. Il n'y a aucun moment où tu peux te dire que Jésus t'a abandonné. Peut-être que tu ne sentais pas sa présence, mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas là. Jésus a promis, il s'est engagé, il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». J'ai eu la joie en fait cette année, petit clin d'œil du coup à Étienne du coup qui a travaillé pour cette organisation pendant longtemps. Mais j'étais invité cette année pour le week-end annuel de l'organisation Porte Ouverte, qui s'occupe des chrétiens persécutés dans le monde. Et c'était un week-end assez émouvant. Il y avait beaucoup de témoignages de chrétiens persécutés en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud. Et il y en a un en particulier qui m'a frappé, c'est le témoignage d'Omar. Alors je ne vais pas le lire en entier, mais juste résumer rapidement. Omar, il est responsable d'église au Mozambique. C'est un pays du coup où il y a beaucoup de persécutions, il est marié et il sert dans une petite ville et il s'est installé dans cette petite ville parce qu'il n'y avait aucune église là-bas. Et donc il annonce l'évangile et puis il y a toujours des menaces en fait envers les chrétiens dans cette région-là et les persécutions sont intenses. Et son ministère grandit et puis un jour il y a un groupe d'extrémistes qui vient caillasser son domicile, qui l'attaque, qui l'immobilise, qui le ligote par terre. Et puis il commence à le frapper, il y en a un qui prend un grand bâton et qui s'approche de lui. Et là en fait Omar il se dit, c'est le moment, je vais mourir. Et là tout à coup ce verset lui revient, Matthieu 28, 20, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et à ce moment-là en fait il sait que Jésus est avec lui dans ce moment précis. La peur s'en va, et puis tout à coup alors qu'il pensait mourir, il relève la tête et puis les brigands sont partis. La police militaire est arrivée et il est sauvé. On a vu en fait des photos de son état juste après ça. En fait, il était vraiment en mauvais état. Et son témoignage, il prenait place dans une partie en fait où il y avait certains des responsables de Porte Ouverte en Afrique, donc qui s'occupent un petit peu de Porte Ouverte, voilà, qui avaient eu l'occasion de rencontrer Omar et de discuter avec lui après cette persécution, après cette attaque en fait terrible où il avait fallu perdre la vie. Et du coup, on leur posait la question, qu'est-ce qui vous a marqué chez Omar quand vous l'avez rencontré? Et la première réponse qui est venue de ces personnes, c'est la joie. Il débordait de joie, il faisait des blagues, il était souriant, il était heureux d'appartenir à Christ alors qu'il venait quasiment de perdre la vie, qu'il avait souffert, qu'il n'était pas tout à fait remis. C'était la joie en fait qui débordait. La joie, ce n'est pas une émotion positive en fait. La joie, c'est quelque chose qui jaillit quand l'Esprit de Dieu habite à l'intérieur de nous. C'est la conviction profonde que Jésus est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Notre espérance, elle vient d'une deuxième chose, c'est le verset suivant. Dans Colossiens, au chapitre 1, verset 27, on lit que Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Et le secret, c'est le Christ est en vous. C'est ça l'espoir de la gloire à venir. Jésus est avec nous, mais il n'est pas seulement avec nous, il est à l'intérieur de nous. Ça veut dire que la graine du royaume de Dieu a été plantée à l'intérieur de ton cœur. Et peut-être que, comme à l'extérieur, quand tu regardes les champs et que tu te balades un petit peu dans les plaines de Savoie, tu ne vois rien du tout, il n'y a pas de blé, il n'y a pas de maïs, il n'y a rien du tout, mais les graines, elles sont là. À l'intérieur de toi, la graine du royaume de Dieu a été plantée. Et la promesse de Jésus, c'est que cette graine, elle va germer, et puis un jour, ça va devenir un grand arbre. L'apôtre Paul dit, encore une fois lui, il dit, la personne de Christ est formée à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui prend toute notre vie, ça prend tout le long de notre existence sur terre. Il y a des moments où on voit un petit peu que ça grandit, puis il y a des moments où il ne se passe rien. Mais ce que Dieu a planté, en fait, ce qu'il a commencé en vous, il va l'achever. Et ça, c'est un sujet d'espérance aussi. Si Christ est à l'intérieur de nous, ça veut dire qu'il y a une révolution qui est en marche à l'intérieur de votre être. Et ça, c'est un sujet d'espérance et c'est un sujet aussi qui va générer de la joie. Bien sûr, il y a toujours des tentations. Bien sûr, il y a certains dossiers qui continuent à être là, certains traits de caractère, certaines choses dans vos vies. Mais si vous regardez en prenant de la hauteur, vous voyez aussi que vous n'êtes plus la même personne qu'il y a quelques mois, quelques années. Il y a un chemin que Dieu est en train d'accomplir. Peut-être que vos crises de colère sont moins fréquentes. Peut-être que votre cœur, petit à petit, est en train de s'adoucir. Dieu est en train d'œuvrer à l'intérieur de vous et le royaume de Dieu porte toujours son fruit à un moment ou à un autre. C'est une bonne nouvelle. Et enfin, le troisième sujet d'espérance pour nous, c'est que Jésus revient bientôt. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Et là, on sent bien l'entre-deux. Jésus est avec nous, Jésus est en nous, mais un jour, on sera avec Jésus. Jésus est déjà là, mais c'est encore en fait dans l'avenir le moment où on sera réunis avec lui pour toujours. C'est difficile d'être chrétien et de ne pas croire au miracle. Notre espérance, c'est que peut-être chacun d'entre nous, on va mourir, sûrement, mais qu'après ça, au son de la trompette, Jésus recréera chacun d'entre nous. Il nous donnera un corps spirituel, il recréera en fait qui nous sommes, il nous relèvera d'entre les morts et nous vivrons avec lui pour l'éternité. Si ce n'est pas un miracle, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est le fondement de notre espérance. Pourquoi est-ce qu'on croit ça? Parce que Jésus est ressuscité et que quand il est ressuscité, il a pris du poisson. Il s'est assis avec ses disciples, ils ont pu le toucher, ils ont pu mettre les doigts dans ses blessures. Ce n'était pas un espèce de nuage, en fait, Jésus, quand il est ressuscité. Ce n'était pas un esprit vaporeux. C'était un être humain régénéré dans un corps incorruptible. Et c'est ça qui nous attend. Peut-être aujourd'hui, vous êtes opprimé par la maladie, la souffrance, en fait, dans votre corps, de votre santé. Notre corps, en fait, c'est un véhicule qui a une date de péremption. Il est touché aussi par la dimension en fait, de la chute et du péché. Ce n'était pas forcément prévu comme ça au départ, mais à un moment, en fait, ce corps que nous avons, ce corps biologique, il arrête de fonctionner. Mais un jour, Dieu recréera notre corps et ce sera un corps incorruptible. Et nous vivrons avec lui pour l'éternité. C'est le socle de notre espérance. Jésus est avec nous, Jésus est en nous et Jésus revient bientôt. Si on essayait de savoir comment est Dieu quand on s'intéresse à son caractère, on a des petits indices quand on regarde Jésus. Si vous voulez découvrir le Père, il faut regarder la vie de Jésus dans les évangiles. Et je pense qu'une des choses qui est touchante quand on regarde Jésus agir et vivre au milieu de ses disciples, c'est que Jésus semble quelqu'un de très joyeux. Jésus est venu sur terre pour être crucifié à la fin. Vous vous rappelez, ce n'est pas la période la plus drôle. Il doit vivre le combat le plus intense de l'univers, en fait. Il va passer par les souffrances les plus terribles de l'univers. Mais ce qui caractérise Jésus, c'est sa joie. Jésus semble joyeux. Il prend du temps avec les enfants qui viennent pour jouer avec eux, pour les prendre dans ses bras. Il prend du temps, en fait, pour faire des blagues. C'est plus facile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. C'est une blague, en fait. Jésus va prendre plaisir à faire des petits jeux avec les pharisiens pour les prendre au piège, en fait, de leurs mots, en trouvant des moyens, en fait, de les prendre à revers. Et j'aime bien ce verset, je ne l'ai pas affiché du coup, mais il y a ce verset, vous savez, dans Luc au chapitre 10, où Jésus tressaille de joie, et puis parce que, il tressaille de joie parce que Dieu a choisi en fait de donner ces choses, pas juste aux sages et aux intelligents, mais de les confier aux enfants. Mais j'aime bien cette expression, Jésus tressaille de joie, parce que quand on le lit, on a l'impression que Jésus, la joie m'envahit. Non, ce n'est pas du tout ça. Tressaillir de joie, je pense que c'est la vieille manière de dire que Jésus avait un fou rire. Il était tellement émerveillé par ce que Dieu avait fait en confiant les choses importantes en fait, de la vie à des petits-enfants et pas aux sages et aux intelligents, que je pense qu'il avait un fou rire, tout simplement. Si on rencontre Dieu, on se rend compte que c'est la personne la plus joyeuse de l'univers. Ce n'est pas juste qu'il est joyeux, c'est qu'il est la joie. La joie vient de qui est Dieu. Il y a ce verset dans Néhémie, chapitre 8, verset 10, qu'on peut afficher. « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Il y a beaucoup d'incertitudes dans cette année, quand même, qui commence. Voilà, la Russie, elle est en train de combattre l'Ukraine, et puis peut-être elle va s'attaquer à d'autres pays. Les États-Unis sont moins intéressés de nous soutenir en tant qu'Européens. Finalement, ce n'est pas intéressant pour eux. Il y a plein d'incertitudes sur le marché de l'emploi. Si vous êtes jeune, ben, du coup, il y a plein de choses qui sont en train de changer, d'évoluer. On parlait de la santé tout à l'heure. On peut parler des finances. On peut parler de plein de choses qui sont incertaines. J'aimerais en fait vous donner une arme pour affronter en fait cette année. La joie de l'Éternel sera votre force. Remarquez que ce verset, il ne dit pas « la joie d'un être humain, c'est sa force. Soyez joyeux, puis ça ira mieux. » Non, ce que dit ce verset, c'est que la joie de Dieu est votre force. Le fait que Dieu soit joyeux, c'est ça qui va vous donner de la force en fait cette année. Dieu va porter en fait ce fruit de la joie à l'intérieur de vous. C'est la joie de Dieu qui va être votre force. C'est la joie de Dieu à votre sujet qui va être votre force. Il y a une question d'identité. Comment est-ce que vous pensez que Dieu vous voit ? Dieu vous voit comme un enfant, une fille chérie. Il a mis toute son affection en vous comme il l'a mis en Jésus, puisque vous êtes en Jésus. Vous êtes aimé, vous êtes accepté, vous êtes désiré. Vous êtes la prunelle des yeux du Père Céleste. Dieu fait de vous ses délices. La joie de Dieu sera votre force cette année. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien qui peut éteindre la joie de Dieu. Vous ne pourrez pas en manquer, malgré les circonstances, malgré les difficultés que vous allez traverser, les choses tragiques peut-être. La joie de Dieu est éternelle, elle ne s'éteint jamais, c'est la chose la plus puissante de l'univers. Alors notre prière dans cette fin d'année, c'est « Seigneur, mets en nous ta joie ». Je suis tombé en fait cette semaine, je repensais à ce verset, puis je ne sais pas pourquoi, chaque début d'année j'aime bien prier et puis dire « Seigneur, quel est le verset que tu me donnes, la direction un peu que tu me donnes pour cette année ?» Puis je suis tombé sur ce verset, j'ai l'impression que c'est ça que Dieu me dit, j'avais envie de le partager avec vous, le suivant du coup, voilà. C'est dans Ecclésiaste, qui est, comme vous savez, un livre très rigolo dans la Bible. Si vous êtes un peu déprimé, vous pouvez être beaucoup déprimé en le lisant en entier. Mais c'est dans la Bible, il faut le lire aussi. Hein. Et puis j'aime beaucoup ce livre. Mais il y a, au milieu de plein de choses qui sont un peu déprimantes, il y a ce verset qui est assez dingue dans Ecclésiaste chapitre 9. « Va et mange ton pain dans la joie et bois de bon cœur ton vin, car Dieu prend plaisir dès maintenant à ce que tu fais. » C'est le verset avec lequel je commence cette année. Je trouve que ça démarre bien l'année, en fait. Le conseil que Dieu nous donne, mange de bon cœur ton pain, bois de bon cœur ton vin. Bon, je ne sais pas quelle est votre théologie sur le vin, mais c'est dans la Bible. Hein. Parce que la raison, c'est que Dieu prend plaisir dès maintenant à ce que tu fais. On parlait tout à l'heure de la volonté de Dieu. Je ne sais pas ce que tu vas faire cette année, mais le plaisir de Dieu, il ne vient pas en fait, de tes œuvres et de tes actions, il vient de qui tu es. Et je pense que si vous êtes parents ou si vous avez été, si vous êtes des parents d'il y a longtemps aussi, ça marche aussi, vous vous souvenez souvent en fait, peut-être aussi de comment est-ce que vous considériez vos enfants. Ce n'est pas le fait qu'il ramenait un 18 sur 20 à la maison qui faisait que vous vous réjouissiez de lui ou d'elle. C'est que c'était votre enfant. Et vous étiez, avec respect, mais vous étiez des parents très imparfaits comme moi, alors que notre Père Céleste est parfait. La joie en fait, qu'il ressent à votre sujet... C'est la joie de qui vous êtes, pas de ce que vous pouvez faire cette année. Mange ton pain dans la joie, bois de bon cœur ton vin, car Dieu prend plaisir dès maintenant à ce que tu fais. Allez, partie 2. Je me suis bien étendu sur la partie 1. Priez sans cesse. Vous allez voir que ces trois parties, en fait, elles ne sont pas différentes. Elles sont très reliées l'une avec l'autre. Priez sans cesse, ce verset, en fait, il m'interroge, parce que des fois, je dors. Des fois, je mange. Des fois, je regarde la télé, j'avoue. Je suis un mauvais chrétien, peut-être. Des fois, je suis occupé à faire quelque chose qui nécessite mon attention. Je n'ai pas le temps de prier en même temps. Alors, qu'est-ce que Paul nous dit quand il nous dit « prier sans cesse » Je pense que c'est une invitation à changer en fait, notre regard sur la prière. Quand je fais quelque chose sans cesse, ça veut dire que mon existence dépend de ce que je fais. J'ai un corps biologique, si j'arrête de respirer, mon corps biologique a un problème. C'est pour ça que je respire sans cesse, parce que mon corps biologique en a besoin pour fonctionner. j'ai aussi un corps spirituel. Et ce corps spirituel, il a besoin d'oxygène aussi. Et cet oxygène, finalement, c'est la prière qui va me l'amener. J'ai besoin, en fait, de prier sans cesse pour que mon corps spirituel puisse se développer. Mais finalement, en fait, la raison principale pour laquelle je peux prier sans cesse, c'est parce que cela dépend aussi de mon identité profonde. La Bible nous présente ce qu'est l'être humain. Elle nous dit « l'être humain, c'est une maison pour Dieu ». C'est le verset suivant. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Qu'est-ce que vous êtes ? Vous êtes une maison. Vous êtes un temple et l'Esprit de Dieu habite à l'intérieur de vous. La connexion en fait entre Dieu et vous, elle est permanente. Je cite souvent ce livre que j'aime beaucoup de Frère Laurent de la Résurrection, ça a plusieurs siècles. C'est un peu étrange à découvrir au départ, parce qu'il s'agit d'un moine soldat, enfin un ancien soldat pardon, qui est devenu moine. Et puis c'est les discussions avec un disciple plus novice en fait qui commence le fait d'être moine. Donc voilà, au départ ça donne pas spécialement envie de le lire, mais quand on lit un petit peu, ça se lit très rapidement et c'est des discussions donc entre ce moine un peu plus âgé et puis ce moine plus jeune. Et la spécificité de Frère Laurent de la Résurrection, c'est le titre de son livre, c'est qu'il a beaucoup pratiqué la présence de Dieu. Pratiquer la présence de Dieu, c'est ça son livre. Et son secret, en fait, finalement, c'est que le moment où il se sent le plus proche de Dieu, où il est le plus profondément dans la prière, c'est pas quand il est au culte ou à l'office avec les autres moines, c'est pas dans les moments spirituels, en fait, de sa vie, c'est quand il est dans la cuisine, puisqu'il s'occupe de faire à manger pour les autres moines, et qu'il est en train d'éplucher des pommes de terre. Et il dit à ce moment-là, je suis en train d'éplucher les pommes de terre, mais si on descend plus profondément à l'intérieur, il y a un endroit où le Saint-Esprit et mon esprit sont unis. Et peut-être que je suis juste en train d'éplucher des pommes de terre, mais plus profondément, en fait, je suis en train de dire, Seigneur, quelle joie, en fait, d'éplucher ces pommes de terre avec toi. Viens habiter ce moment où j'épluche mes pommes de terre. Je suis tellement bien d'être en relation avec toi. Merci d'être avec moi, en fait, dans ce moment. Et du coup, sa cuisine était devenue plus importante, en fait, pour Frère Laurent que l'église ou le temple ou le moment, en fait, spécifique de la prière. Voilà. Et je pense peut-être que notre souci, c'est qu'on a fait de la prière une activité comme d'autres. On fait la vaisselle, on fait la prière, on fait voilà, une activité. Mais en fait, c'est vraiment notre identité, notre raison d'être qui est la base de notre prière. Ce lieu à l'intérieur où Dieu et moi, nous sommes un, c'est quelque chose que j'emmène partout avec moi. Dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, quand je suis en train de prendre un verre avec des amis en ville, quand je suis avec ma famille, quand je suis en train de travailler sur quelque chose qui nécessite ma réflexion, je suis toujours ce temple ambulant, je suis toujours cette maison de Dieu à l'intérieur. Alors à certains moments, c'est important quand même qu'il y ait des moments de prière formels un petit peu, des moments où on prend du temps à part pour se retrouver avec Dieu. Pour prendre l'analogie un peu, c'est comme si vous êtes marié, hein, évidemment, vous ne passez pas tout votre temps à discuter avec votre conjoint, parce qu'il faut bien que vous fassiez d'autres choses en même temps. Il faut gagner un petit peu d'argent aussi, hein. Ou alors il faut voilà, il y a d'autres personnes à voir que votre conjoint, mais finalement cette connexion que vous avez avec lui, en fait, elle est là tout au long de votre vie. Mais c'est important qu'il y ait aussi des moments spécifiques où vous vous retrouvez seul à seul tous les deux et vous allez pouvoir avoir des temps de conversation prolongés et intimes. Et là c'est pareil avec Dieu, en fait, il y a des moments spéciaux, mais en fait cette union, cette connexion avec Dieu, elle se prolonge tout au long de notre vie. Donc je vous invite vraiment dans cette année qui commence à emmener Dieu partout où vous allez. Il y avait chez mon grand-père, vous savez les panneaux en bois pyrogravés là avec un verset, des choses comme ça. Et là en fait c'était pas un verset, il y avait marqué « Dieu est présent dans cette maison. Hôte invisible de chaque repas, auditeur silencieux de chaque conversation. » Et ça m'avait marqué cette phrase en fait, je me disais « Ah oui c'est vrai en fait ». Dans certaines traditions, vous savez, pour Noël, etc. et tout, on laisse en fait une assiette vide et on dit c'est l'assiette de Jésus. Si jamais Jésus arrive, en fait, on peut lui servir à manger. En fait, je ne sais pas si Jésus a besoin d'une assiette, mais Jésus est déjà là, il est déjà présent. Et souvent, ce qui se passe, c'est que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais on ne fait pas attention à Jésus qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert quand j'étais jeune adulte. Quand je suis arrivé à Paris, je me suis retrouvé dans un placard. Ma seule compagnie, c'était les cafards qui habitaient déjà sur place. on n'a pas beaucoup d'interactions avec des cafards. Hein. Donc j'étais très seul, puis je venais d'une famille nombreuse, on avait beaucoup de, voilà, d'interactions, voilà, beaucoup de discussions, il y avait toujours du bruit, etc. Puis là j'arrive dans mon placard, puis je suis tout seul dans la grande ville de, avec les 9 millions de personnes autour de moi que je ne connais pas. Et du coup c'est plutôt par nécessité et par défaut que j'ai appris à développer en fait, cette pratique-là. Quand je rentrais chez moi, en fait, j'étais tout seul et puis je me sentais seul. Et j'ai commencé en fait à prier de manière très informelle justement. C'était pas du tout des moments où je me mettais à genoux et puis où je joignais les mains et j'ouvrais la Bible, etc. C'était des moments où je disais, ah Seigneur, tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui ? J'ai été en cours. Bon, et alors je suis tombé sur un tel. Et alors tu sais ce qu'il m'a dit ? Et voilà, je parlais à Jésus de manière informelle comme ça de tous les aspects en fait de ma vie, de ce que j'avais mangé, de ce que j'avais bien aimé, de ce qu'un tel m'avait dit, de comment je m'étais senti quand un tel m'avait dit ça, de ce que j'aurais aimé répondre mais que j'avais pas osé. Et puis je pouvais parler des heures et des heures à Jésus de ce qui me tenait à cœur. Et ça m'a sauvé la vie dans cette période-là parce que j'avais besoin d'interaction, je me sentais seul. Et en fait, ma connexion avec Jésus, elle a grandi parce que j'ai traité Jésus comme une personne qui vivait avec moi. Et peut-être dans nos vies, en fait, vous êtes peut-être tous dans des aspects différents. Il y en a qui sont au début un peu, il y en a qui sont déjà une bonne partie du parcours. Tous, on a besoin en fait, de redécouvrir en fait, la simplicité de la présence de Jésus avec nous au quotidien. Mon sanctuaire, c'est la voiture. J'aime prendre la voiture. Et j'aime bien, en fait, alors j'aime beaucoup aussi la prendre en famille, mais j'aime beaucoup aussi quand je suis tout seul dedans, parce que du coup, je discute avec Jésus comme s'il était sur le siège passager. Et je raconte ce que je vis en ce moment, les choses qui m'intriguent, qui m'intéressent, les soucis que je me fais. Et en fait, c'est un moment en fait, où ma connexion avec Jésus, elle grandit aussi. Prier sans cesse, on peut voir dans la slide suivante, on l'a chanté tout à l'heure, en fait, c'est la mise en pratique aussi en fait, de cette prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc là aussi, c'est vivre dans cette tension et dans ce paradoxe, en fait. La prière, finalement, c'est quand on appelle le royaume de Dieu qui est à venir ici, maintenant, à être déjà là. Quand on prend, en fait, ce qui est à venir et qu'on le met dans le présent, ici. Et c'est ça, en fait, que le Notre Père nous invite à faire, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que le futur puisse venir maintenant. Paul nous conseille, du coup, dans le verset suivant, c'est dans Timothée en fait qui nous dit ça. Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. Et je lisais ce verset et je me disais, mais en fait, combien il y a d'êtres humains en fait sur Terre aujourd'hui? Il y en a quoi? 7 milliards peut-être? On n'a jamais fini de prier, en fait, c'est ça que ça veut dire. Si on doit adresser en fait à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes, ben, il vaut mieux qu'on commence maintenant. Dernière partie, remercier Dieu en toutes circonstances. Je précise en attaquant cette troisième partie que je prêche à moi-même aussi ce matin parce que je suis très nul en joie. Ce n'est pas le truc le plus, on dirait comme ça, mais en fait ça m'a demandé beaucoup de travail. Hein. Je veux dire, à la base, moi je suis plutôt quelqu'un de râleur, mes amis proches le savent. J'aime bien voir le truc qui ne va pas plutôt que tout ce qui va bien. Je suis ronchon le matin. C'est pour ça que c'est un effort pour moi d'être avec vous là tout de suite. Et donc c'est quelque chose qui me demande beaucoup de travail. Mais j'ai l'impression petit à petit, au fur et à mesure des années, que quand même il y a un petit peu plus de joie. Alors j'ai une équipe de choc aussi pour ça. Ma femme et mon fils m'aident beaucoup à commencer à me prendre un peu moins au sérieux, puis à voir les choses du bon côté. Mais aussi à laisser en fait la joie de Dieu m'envahir. Oui, c'est ça que je n'ai pas dit tout à l'heure qui est important, c'est que c'est quand même un choix de notre part. On a la possibilité en fait de mettre la joie de côté aussi. Ce n'est pas une émotion, mais c'est un choix quand même de notre part aussi, de privilégier la joie en fait quand elle vient dans notre cœur. Et la reconnaissance, c'est pareil, c'est un truc sur lequel je dois travailler beaucoup pour que ça devienne quelque chose qui fasse partie de ma vie. Donc je m'y mets un petit peu, voilà. On va lire le verset du coup juste après. C'est dans Psaume, verset 4, chapitre 100. « Entrez dans ses portiques avec reconnaissance, entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. » J'aime bien ce verset parce qu'il nous montre que la reconnaissance, c'est la porte d'entrée dans la louange. C'est le début. Vous voulez commencer à louer, trouvez quelque chose pour remercier Dieu. Si vous commencez par ça, naturellement après, vous allez commencer à louer Dieu, en fait, à dire sa bonté, sa fidélité et tout ce qu'il fait pour vous. J'en avais parlé en fait de ce sujet de la reconnaissance en utilisant le mot qui est dans ce verset, qui est le mot Toda. Vous savez, hein, si vous allez du coup en Israël, et que vous arrivez à l'aéroport et puis qu'il y a quelqu'un qui vous tient à la porte, vous pouvez lui dire Toda, Toda Rabba. Ça veut dire merci beaucoup. Et c'est le mot qui est utilisé en fait dans l'Ancien Testament pour tous ces moments où on parle de reconnaissance et d'action de grâce. C'est une action spécifique de louange de dire merci à Dieu, de reconnaître en fait ce qu'il a fait pour vous. Le truc, alors mon combat à moi, je vous partage du coup, la difficulté pour remercier Dieu en toutes circonstances, c'est que parfois il faut qu'on retrouve notre capacité à nous émerveiller. Moi j'ai une tendance à devenir très vite blasé et cynique, et puis à regarder les choses en disant bah, c'est bon, vous m'avez eu une fois, vous ne m'aurez pas une deuxième. Et avec le temps qui passe, ça a demandé beaucoup de travail pour que j'apprenne à m'émerveiller à nouveau. C'est quelque chose qui était facile en fait quand j'étais enfant. D'ailleurs au passage, vous savez combien de fois en fait rit un enfant de 4 ans par jour ? 300 fois en moyenne. Un adulte en moyenne, combien de fois il rit par jour ? 20 fois. Et encore, c'est pour les plus joyeux d'entre nous. Jésus nous dit « Devenez comme des petits-enfants. Sans cela, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. » Je vous laisse cela. En fait, je me suis rendu compte que devenir blasé et cynique, en fait, c'était une manière pour moi d'éviter en fait, de souffrir davantage. Parce que accepter de s'émerveiller, c'est aussi accepter d'être trompé. C'est aussi accepter d'être vulnérable. Et donc, quand on est trompé, quand on est blessé, en fait, parce qu'on était justement dans l'émerveillement et qu'on a été trompé, bah, du coup, la réaction de protection qu'on peut avoir, c'est de dire bah, « si c'est comme ça, je ne me ferai plus avoir » et devenir blasé et cynique, pour plus être déçu, en fait. Si vous êtes blasé et cynique, c'est que vous avez perdu en fait votre raison d'espérer, votre raison de vous émerveiller. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est quelque chose que vous pouvez retrouver avec l'aide de Dieu. Remercier Dieu en toutes circonstances, ça ne veut pas dire remercier Dieu pour toutes les circonstances. Hein, le côté un petit peu sadique de « merci Seigneur pour ce cancer, c'est formidable, merci Jésus parce que mon fils prend de la drogue ». Non, évidemment, ce n'est pas ça que le texte dit. C'est remercier Dieu en toutes circonstances. Ça veut dire que quel que soit ce que vous traversez, vous pouvez trouver une raison de remercier Dieu au travers de ce que vous êtes en train de vivre. On disait tout à l'heure, notre Père Céleste, c'est un Père qui est parfait. Il ne souhaite pas votre malheur, il ne souhaite pas votre souffrance. Il ne souhaite pas en fait, votre maladie, son désir n'est pas de vous blesser, de vous punir, mais il va utiliser tout ce que vous traversez pour former la personne de Jésus à l'intérieur de vous. Et donc ça, c'est un sujet de reconnaissance déjà en soi. Je disais il y a quelques semaines pendant la présidence, la reconnaissance c'est déjà peut-être des fois juste de changer en fait, de regard sur les choses, changer de lunettes. Aujourd'hui, en fait, on peut être reconnaissant pour plein de choses. Juste, déjà, juste que je puisse respirer, en fait, ce matin. J'aurais pu, en fait, mourir pendant la nuit, et puis Dieu a décidé de me donner encore un jour. On a l'impression, hein, surtout quand on est jeune, qu'on a la vie, c'est bon, c'est normal, on va vivre pour toujours. Il n'y a pas de fin, ça ne se termine jamais. En fait, si. Nos jours ont un terme, en fait, ils ont une fin. Ça veut dire que chaque jour qui commence, c'est un cadeau que Dieu vous fait. Aujourd'hui, en fait, tout est possible. Vous avez la possibilité, en fait, de pardonner à quelqu'un envers qui vous étiez fâché. Vous avez la possibilité, en fait, de dire à Dieu à quel point vous l'aimez et à quel point il est bon pour vous. Vous avez la possibilité d'aller voir votre conjoint et puis de lui dire « Mais qu'est-ce que c'est bien de vivre avec toi ?» Vous avez la possibilité de, alors, en dessous d'un certain âge, d'aller jouer au foot avec votre fils ou votre fille, de faire un jeu avec, en tout cas. Faites attention du coup, hein, si vous avez un certain âge. Moi, je commence à sentir, quand je vais faire un foot avec mon fils, je rentre, je suis un peu cassé. Hein, je suis, bon. Vous avez la possibilité en fait, de sourire à quelqu'un dans la rue. Vous avez la possibilité de parler de Jésus à quelqu'un qui ne le connaît pas. Tout ça parce que Dieu vous a donné une journée en plus. C'est un cadeau. Comment est-ce que vous allez utiliser cette journée ? C'est à vous de voir, c'est à vous de prendre la décision. Mais on a toujours en fait, quelque chose pour lequel on peut remercier Dieu. « Il y a deux manières en fait d'utiliser la reconnaissance. J'en ai parlé il y a quelques semaines aussi, mais je le rappelle pour ceux qui s'étaient endormis à ce moment-là ou qui n'étaient pas présents. Il y a la reconnaissance qui se tourne vers ce qui s'est passé. C'est la fin d'année en fait, on peut regarder 2025, puis on peut se dire waouh, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. C'est la position de la reconnaissance qui ouvre sur le témoignage. Et en fait, quand on va témoigner, quand on va dire avec des mots ce que Dieu a fait pour nous et ce qu'il a accompli, ça va donner encore plus de profondeur à ce qu'on a vécu. Et ça va ouvrir la porte pour que d'autres puissent recevoir aussi la bonté et la fidélité de Dieu dans les choses qu'on a expérimentées nous-mêmes. Un exemple au pif, hein, mais qui n'est pas forcément le mien cette année, mais si cette année j'ai traversé une dépression et j'étais au bout du rouleau, j'étais tout en bas et je creusais davantage, et puis que Dieu est venu et que miraculeusement il m'a sorti de ma dépression. Quand je témoigne de ça, en fait, j'ouvre la porte pour qu'il y ait d'autres personnes qui puissent recevoir aussi l'aide de Dieu en fait, dans ce qu'ils sont en train de traverser. La reconnaissance, en fait, ça ouvre la porte pour qu'il y ait de nouveaux témoignages qui puissent jaillir à nouveau. Puis il y a une deuxième position pour la reconnaissance, c'est celle de se tourner du coup vers l'avenir. Et c'est une position qui est un peu étrange, mais qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, c'est la reconnaissance pour ce qui va arriver. Et là aussi, en fait, on va commencer une nouvelle année ensemble et on peut regarder en fait 2026 et se dire, Seigneur, il y a beaucoup d'incertitudes cette année, mais il y a une chose qui ne change pas, c'est toi. Tu as été là depuis le jour de ma naissance jusqu'à aujourd'hui, tu ne m'as jamais abandonné et tu ne vas pas commencer cette année. C'est toi qui es ma fondation et quelles que soient les choses que je vais traverser, que je vais vivre, tu vas être présent et tu vas agir. Je ne sais pas comment, mais je sais que tu seras présent et que tu seras là. Alors déjà, mon cœur te dit merci. Dans le premier cas, on était dans le témoignage. Dans le second cas, on est dans la prophétie. On est en train d'annoncer en fait ce que Dieu va faire en nous basant sur son caractère, sur qui il est, sur ses vertus, sur sa bonté, sur sa fidélité. Voilà qui est mon Dieu et ce qu'il va accomplir en fait pour cette année. Dans la lignée de ce que je disais tout à l'heure, le verset suivant. Je suis tombé sur ce verset il y a quelques... C'était ce matin, en fait, et j'étais touché par ça. « Je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. » C'est Paul qui dit ça. Et j'ai regardé un peu, je me demandais justement le mot « reconnaissance », en fait, comment il était utilisé dans la Bible. Alors, je regardais juste dans le Nouveau Testament, il est utilisé 38 fois. Et Paul, ce n'était pas un guéluron, mais par contre, c'était quelqu'un qui disait beaucoup merci. Et on voit, en fait, j'avais jamais remarqué à quel point, en fait, dans les lettres de Paul, il rend grâce tout le temps. Il dit merci tout le temps pour ce qui s'est passé, pour la foi des gens, parce qu'ils ont tenu bon, parce qu'ils grandissent par rapport à Dieu. Il prend beaucoup de temps pour remercier Dieu pour ça. Jésus disait beaucoup merci aussi. On voit en fait que très souvent, j'avais jamais fait attention, mais à chaque fois que Jésus est en train de manger, il commence par dire merci. C'est peut-être de là que vient cette habitude qu'on a des fois dans nos familles de rendre grâce au début du repas. Peut-être comme moi, si vous aviez des parents ou des grands-parents chrétiens, vous avez cette hantise du repas du dimanche où le patriarche du coup prenait la parole pour remercier Dieu alors qu'il y avait le poulet et les frites sur la table et puis il commençait à la Genèse et puis il traversait la Bible jusqu'à l'Apocalypse. Puis on pensait qu'on allait enfin manger, mais il commençait à remercier Dieu pour les Chinois, pour les Australiens. Et là, on était là et on avait faim. Et puis à la fin, il disait Amen et puis on se jetait sur le repas. Mais c'est une bonne habitude en fait. Là aussi, c'est un sujet de reconnaissance, de dire Seigneur, tu nous as donné à manger pour ce jour. Merci pour le pain de ce jour. Merci parce que tu pourvois nos besoins. Rendre grâce en toutes circonstances. Ce que j'avais noté dans ce verset, c'est que Paul remercie Dieu pour des gens. Je ne sais pas si vous faites ça, mais moi, ça m'arrive rarement et je me suis dit que j'allais essayer de changer ça cette année. Est-ce que vous priez en disant merci Seigneur pour un tel ? Je suis tellement content de connaître Sylvain. Merci Jésus pour Jeff. Waouh, Seigneur, c'est formidable en fait que tu aies créé ces personnes. Je fais jamais ça, mais en fait Paul, c'était son habitude de remercier Dieu pour des gens, pour des personnes. Et on est en église, alors peut-être que ça peut être une pratique bénéfique pour notre communauté cette année de remercier Dieu les uns pour les autres. Rassurez-vous, j'arrive à la fin de ma prédication, on va tous bientôt pouvoir aller manger, ce sera un sujet de reconnaissance, vous pourrez rendre grâce pour la fin de la prédication de Sam. En conclusion, il y a une graine qui a été plantée, c'est la semence du royaume de Dieu à l'intérieur de nos cœurs. Elle n'est pas visible, mais elle est réelle. Elle va grandir elle va pousser et puis petit à petit elle prendra tout l'espace de nos cœurs. Alors cette année, je vous invite à mettre ce verset, on peut revenir sur la slide suivante, voilà, très bien. Ce verset qui était notre base aujourd'hui, je vous invite à le vivre au quotidien. Le matin à votre réveil, au lieu de commencer la journée en râlant, grognon, ronchon, comme je peux le faire très souvent, je vous invite à accueillir la joie de l'Esprit de Dieu pour commencer votre journée. Ce n'est pas la vôtre, ce n'est pas sur vous qu'est la pression en fait. C'est dire, Saint-Esprit, toi qui vis en moi, crée la joie de Dieu à l'intérieur, que je puisse vivre cette journée en étant dans la joie. Et puis, le jour va passer, et tout au long de ce jour qui passe, soyez conscient que vous êtes la maison de Dieu. Soyez conscient que vous voyagez avec l'Esprit de Dieu à l'intérieur, partout où vous allez. Parlez-lui, communiquez avec lui, dites-lui ce qui vous touche. Dites-lui en fait ce que, peut-être les choses qui ne sont pas importantes pour les autres êtres humains, vous pouvez lui dire à lui. Mais soyez intentionnel pour créer, pour approfondir en fait cette connexion avec Jésus qui est présent avec vous tous les jours. Traversez la journée avec ce compagnon divin. Et le soir, alors que votre tête s'étend sur l'oreiller, au lieu de scroller sur votre téléphone, remerciez Dieu pour tout ce qu'il a permis dans cette journée. C'est une très bonne hygiène de vie de finir la journée en disant quelles sont les choses pour lesquelles je peux remercier Dieu aujourd'hui. Alors évidemment, il y a plein de choses qui sont difficiles et qui sont des occasions de souffrance ou de difficulté. Choisissez peut-être des fois un seul sujet, 5 minutes dans la journée où il y a quelque chose de bon que Dieu a envoyé dans votre vie et remerciez-le. Puis ensuite, faites de beaux rêves. Il y a une graine qui a été semée. Plus rien ne sera comme avant. La vie reprend, mais tout est différent. Alors, voici la vie qui s'ouvre devant vous. Il y a beaucoup d'aventures et de péripéties que vous avez à traverser. Il y aura aussi beaucoup de moments suspendus, des moments d'ennui, de questions et d'incompréhension. Mais au bout du chemin, Christ vous attend pour vous ouvrir les portes de l'éternité. Et chaque jour jusque-là, Christ vous accompagne. Dans les bons et les mauvais moments, il est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors allez dans la paix du Christ. Amen.